Cette troisième partie, donc, voix pour inviter Bertrand Malquier. Alors, rappelons que vous êtes aujourd'hui encore premier adjoint à la mairie de Narbonne. Vous êtes également conseiller communautaire, justement parce que vous êtes premier adjoint. Et surtout, vous faites partie des gens qui, depuis un certain temps, n'ont pas caché leur intérêt pour l'agglo. Lorsque nous vous avions reçu il y a presque une année, vous aviez dit clairement que, un, ça vous intéressait et que vous prépareriez pour les prochaines élections municipales une double campagne, c'est-à-dire un double programme municipal et communautaire. Alors aujourd'hui, on est en plein dedans, on est en plein dans le bain. Et effectivement, si l'on voit, si l'on s'en tient au programme de Nouveau-Narbonne, alors dont vous êtes aussi le secrétaire général, si on s'en tient à ce programme, on se rend compte qu'à chaque fois, il y a deux volets, un programme municipal, un programme communautaire. Donc vous avez tenu promesse à ce niveau-là. Où en êtes-vous aujourd'hui, Bertrand Malquier, dans la préparation, justement, et dans vos réflexions ?
Alors merci de votre invitation. J'apprécie toujours de venir ici pour m'exprimer et écouter chaque fois vos chroniques très intéressantes. Le mouvement auquel j'appartiens, Nouveau-Narbonne, est dans la campagne des élections municipales, mais également celle du Grand Narbonne. On a préparé notre bilan que nous avons présenté aux Narbonnais, un bilan sur lequel eh bien, on nous attendait. On a su répondre, puisqu'en 6 ans, on a mis en œuvre à peu près tout ce qui était dans le contrat de campagne en 2014. 90% de notre bilan a été réalisé. Nous avons constitué notre liste et nous avons écouté pendant 6 ans les Narbonnais, les Narbonnaises, les gens du territoire pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient faire du territoire demain. Et nous avons écrit ce programme de campagne. Effectivement, on l'avait déjà annoncé, ce n'est pas que de la pédagogie, c'est également avoir une démarche nouvelle, appréhender le territoire dans sa globalité, avoir un double contrat de campagne, un double programme, à la fois sur la ville et sur l'agglomération. Aujourd'hui, nous sommes pris dans la campagne des municipales, tout en réfléchissant sur la gestion de l'exécutif du Grand Narbonne de demain, et nous voulons, la ville de Narbonne, Didier Mouly, toute l'équipe Nouveau-Narbonne, souhaite participer très activement à ce prochain exécutif. Donc nous ne nous cachons pas derrière des personnes, il n'y a pas eu de candidature de personnes, il y a eu un programme, nous arrivons d'abord avec un programme, des idées, des discussions, des échanges avec les maires du territoire que l'on a découvert, que l'on a connu, que l'on a rencontré, et ce programme aujourd'hui est distribué aux Narbonnais et sera connu, j'espère, au-delà du territoire.
Donc les gens vont le trouver dans leur... Enfin, les Narbonnais, en tout cas, vont le trouver dans leur boîte aux lettres très, très prochainement. À propos de bilan, alors, parmi les projets dont vous dites, Bertrand Malquier, qu'ils ont été réalisés à 90%, il y a ce qu'on appelle l'équipement phare, l'Arena, dont on se souvient qu'il avait été fort contesté pour tout un tas de raisons. Aujourd'hui, 2 mois après son inauguration, avez-vous quelques chiffres, un premier bilan, même s'il est frais?
Alors tous les grands projets à Narbonne ont été critiqués par des minorités très bruyantes à chaque fois. Ça a été le cas du théâtre, ça a été le cas de la médiathèque, ça a été le cas de l'espace de liberté. L'Arena était un projet qui était bien pensé en amont, qui a été budgétisé, financé, finançable par la ville. Aujourd'hui, l'Arena est une réalité depuis le mois de décembre. Et en 2 mois, décembre et janvier, 33 000 visiteurs, 33 000 spectateurs se sont rendus au sein de l'Arena. Je crois qu'aujourd'hui, c'est à la fois une signature architecturale remarquable qui marque cette entrée de ville moderne et ce nouveau quartier des berges de la Robine. Et c'est à la fois bien un endroit ludique, intéressant, qui plaît. 33 000 spectateurs, c'est au-delà de nos attentes. La programmation s'enrichit au fur et à mesure de son avancement. Il y a eu quelques petits réglages au démarrage. Plus ça va et plus le cadre est agréable et les réceptions sont agréables. Le volet y a pris ses marques. C'est un équipement en devenir dont on ne se fait aucun doute sur ses équilibres prochains et qui attire surtout aussi la jalousie parce que Perpignan avait la même envie sur cet équipement, Béziers l'a eu également. Il ne pouvait y en avoir qu'un seul entre Carcassonne, Béziers et Narbonne. Nous sommes bien contents qu'il soit à Narbonne, puisqu'en plus il participe à l'activité économique de notre territoire.
33 000, ce chiffre que vous dites, ça représente quoi ?
Alors, c'est hors inauguration, c'est tous les spectacles, le volet, toutes les manifestations.
Depuis mi-décembre.
Depuis le 13 décembre, je crois, de mémoire, ou 7 ou 13 décembre, l'inauguration, hors l'inauguration, mais tous les spectacles qu'il y a eu, le spectacle des seniors en fait partie, les matchs de volet également, 33 000 personnes sur décembre et janvier.
Oui. Bon, or, les opposants à l'époque, certains en tout cas prétendaient que personne ne fréquenterait cet établissement, donc ce chiffre-là semble démontrer le contraire.
C'est une aberration parce qu'il y a beaucoup. Les réseaux sociaux participent à ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, à se raconter une version de sachant alors que l'on n'est pas. Un des prétendants en son temps, Monsieur Martinez, je suis tout seul à Narbonne, avait envisagé de nous mettre des bâtons dans les roues sur l'aréna. Et donc il avait sorti le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2014, qui marquait la période 2008-2014. Et dans ce rapport de la Chambre régionale des comptes, il y avait mentionné trois possibilités. Soit vous continuez la gestion précédente avec des dépenses de fonctionnement importantes et vous ne pourriez pas vous dégager des marges suffisantes pour investir sur un équipement tel que l'Arena. Soit vous diminuez les dépenses de fonctionnement, vous faites des économies là où elles sont facilement réalisables, vous dégagez des marges suffisantes et vous pourrez investir. Ça, c'était la gestion précédente. Monsieur Martinez faisait croire que c'était un rapport de la Chambre régionale des comptes qui venait de sortir la semaine précédant ces déclarations. Donc nous avons fait les efforts nécessaires, nous avons eu un budget très offensif. C'est dans l'histoire de Narbonne la première fois que la collectivité aura dépensé près de 37 millions d'euros sur une année de mandat pour faire non seulement l'aréna, mais en plus tous les équipements du quotidien, la rénovation des routes, les aménagements nécessaires, un investissement très fort qui a été porté par la collectivité.
Alors Bertrand Malquier, donc, comme je l'ai expliqué au début, si vous êtes là, c'est d'abord, enfin pas uniquement la preuve, mais d'abord parce que vous êtes quelqu'un qui d'abord est jeune, donc a un certain avenir politique, mais surtout a marqué clairement son intérêt pour l'agglomération. Alors vous avez dans votre programme déjà expliciter un certain nombre de positions dans le chapitre que vous appelez « La gouvernance du Grand Narbonne ». Alors déjà, les grandes intentions, les cadres, si je puis dire, rappelez quels ils sont pour vous.
Justement, on parlait de personnes tout à l'heure. On ne tient pas, je suis pas, je me lève pas le matin en disant « je veux être président, je veux être ceci ou cela ». On s'attache au fond d'abord et ensuite à la méthode. Aujourd'hui, pour être président de l'agglomération, on en est convaincu, et il y a une majorité d'acteurs du Grand Narbonne qui le sont, il faut être un président à temps plein. Il faut être un président qui s'investit. Il faut vraiment porter un projet de territoire, écrire un projet de territoire et le mener du début à la fin. C'est chronophage, la présidence d'une agglomération. Avec les enjeux tels qu'ils sont sur notre territoire, le grand port, avec la région et ses développements futurs, l'aménagement des axes, tout ce qu'on doit faire, redessiner par exemple les contours des fonds de concours intercommunaux pour participer à la solidarité intercommunale et pas faire n'importe quoi sur ce sujet. Mais il faut quand même accompagner les communes. Il y a tout un tas de sujets qui sont nécessaires à traiter, qui demandent un investissement plein et entier. Justement, la prochaine réunion du Conseil communautaire, celle de rentrée, sera le 23 avril, et elle nous laissera un mois plein entre le deuxième tour des municipales et ce Conseil communautaire qui verra l'élection du bureau exécutif pour décider qui pourra être cette personne, qui pourra incarner cette personne. Mais on a mis...
Donc aujourd'hui, il est un peu tôt pour le dire, mais il y a quand même un certain nombre, encore une fois, de personnes qui avouent que ça les intéresse, d'autres que ça n'intéresse pas, et d'autres que ça intéresse, mais qui ne veulent pas que ça soit dit clairement.
Pour nous,
disons les choses aussi plus précisément, en fait, Jean-Claude, enfin, il n'y a pas de raison de ne pas le dire. En fait, Bertrand Malquier a lui-même dit, en fait, hein, il s'entend fortement, disons, que la présidence de l'aglo ne lui déplairait pas, en fait, en son temps.
Ouais, bon, on y reviendra donc au moment opportun, mais encore une fois, on est dans une situation, c'est ce qu'on tente d'expliquer, qui est assez, justement, compliquée et opaque.
Parce qu'il faudra, justement, accepter les principes que l'on pose en socle démocratique, le non-cumul des mandats, mais un non-cumul cumul fort, c'est-à-dire pas se contenter de ce que dit le législateur. C'est un non-cumul, pas plus de deux mandats. Autre chose qui aujourd'hui est possible grâce à la loi Engagement et Proximité, c'est sanctionner ces élus défaillants ou absents qui ne siègent jamais, soit au conseil municipal d'ailleurs, soit au conseil communautaire. C'est également répartir, Didier Mouly, vous en avez parlé, cette répartition tripartite en fonction de la ruralité, du littoral et de la ville-centre, des exécutifs, avec des conseillers communautaires délégués sur des missions bien particulières. Aujourd'hui, ce que j'appelle moi les fonctions régaliennes de l'agglomération, la gestion de l'eau, la gestion des inondations également, on a des élus de qualité, qui n'ont pas eu de poste de représentation, qui ont été des élus dans le travail. Ces élus-là, je suis quasiment persuadé, parce que certains n'ont pas d'opposants sur leur commune, qu'ils seront de nouveau partie prenante à l'agglomération de demain. Eh bien, il faut se réunir, dresser cette vision du territoire de demain, et se mettre d'accord, arrêter des querelles politiciennes, et se mettre d'accord sur une majorité de gestion, et plus sur une majorité politique.
Oui, en remarquant au passage que, alors, on peut dire bientôt l'ancien président Monsieur Bascou, il est président jusqu'à l'élection, mais il a dit clairement, un, qu'il ne se représenterait pas, et d'autre part, jusqu'ici, il s'est refusé à désigner ce qu'on appelle habituellement un dauphin, ce qui laisse le champ particulièrement ouvert à ce niveau-là. Mais je reviens à ce que vous appelez la future gouvernance. Vous êtes aussi pour limiter le nombre, par exemple, de vice-présidences.
C'est ça, limité à 12 vice-présidences, des vice-présidences réelles, avec par contre un nombre de conseillers communautaires délégués plus important qu'il n'est aujourd'hui. Ces 12 vice-présidences qui représentent la géographie de notre territoire. Je l'ai dit, 4 vice-présidents pour la ville-centre, 4 vice-présidents pour les communes de la ruralité les plus grandes et 4 vice-présidences pour les communes du littoral qui représentent un point économique fort de notre territoire.
Alors maintenant, peut-être encore quelques grands axes que vous aimeriez exposer sur votre vision future de l'agglomération.
Alors déjà, on pense, et on en a échangé souvent avec Didier Mouly, que la compétence économique doit être la priorité de ce futur mandat. Il faut lui donner de l'importance avec une dynamique proactive et prospective. On voudrait que le manager de territoire, c'est un peu la déclinaison de ce manager des centres-villes aujourd'hui, qui est un emploi assez nouveau par le biais de l'action Cœur de Ville, un manager de territoire soit mis en place très rapidement et que l'on travaille sur le recensement du foncier disponible, la ZAC du Pérou à Sigean, le territoire de Montredon-Névian et les ZAC actuels, qu'on repense l'aménagement de ces zones, et surtout celle de Montredon-Névian, puisque je vois arriver grandement un grand problème de circulation à ce niveau-là. Donc oui,
j'allais vous poser les questions. Quelle est la vision des axes routiers nécessaires lorsque, notamment, par exemple, la grande clinique sera transférée là-bas?
Là, aujourd'hui, en l'état, à l'ouverture de la clinique, on ne peut pas rester sur le réseau routier tel qu'il est aujourd'hui. Là, il faut repenser l'aménagement du territoire complètement sur cette entrée de Narbonne et cette liaison entre cette ZAC et la ville. C'est catastrophique, là, aujourd'hui. Donc ça, c'est un des chantiers qu'il faut prendre à bras le corps dès l'élection et très rapidement, de façon à l'anticiper et pas à le subir dans les prochains mois. Pour revenir sur le manager de territoire, c'est celui qui, justement, ira vendre notre territoire, ses avantages. Vous l'avez peut-être vu, mais aujourd'hui, la presse nationale vante Narbonne, sa qualité de vie. Narbonne est classée 2e ville la plus agréable de France pour y vivre en famille. Tous ces candidats aux municipales parlent de l'insécurité narbonnaise et font des propositions soit farfelues, soit populistes. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a une baisse de la criminalité, enfin des incivilités de façon globale, de moins 6,5% à Narbonne. Donc le travail est fait, il faut aller encore plus de l'avant, c'est un coût de la sécurité, mais on ne peut pas faire croire aux gens que Narbonne est une zone dangereuse, c'est pas du tout le cas, c'est pas une réalité. Et bien de la même façon, le manager fera connaître tous ses avantages d'une ville agréable, d'une agglomération agréable, où on a à la fois les plages, un port qui se développe, des vignes, une viticulture et un nonotourisme à développer, et permettra d'attirer des entreprises avec des leviers fiscaux, bien évidemment, et des avantages qu'il faudra conférer à ces entreprises.
Ce manager, c'est un grand démarcheur, en fait.
C'est ça. C'est un grand commercial.
Alors, vous avez, Bertrand Malquier, évoqué un petit peu la sécurité, donc la police et la police municipale. Vous avez aussi, je crois, dans vos projets, la notion d'une certaine mutualisation des polices municipales du territoire.
À l'échelle du territoire, on pense que la problématique de la sécurité doit être partagée. Parce que aujourd'hui, quand vous voyez les chiffres, et cette semaine, la préfète de département a donné les chiffres de la sécurité départementale, on voit que un problème peut naître à Narbonne et se poursuivre sur un village aux alentours. Quand on réfléchit aux caméras de surveillance, le référent de sécurité qui accompagne l'installation de ces caméras demande également que des caméras soient positionnées aux entrées de la ville. Ce n'est pas pour surveiller les vols aux personnes, c'est pour voir la fuite de la délinquance ou surveiller les trafics. Ce sont des éléments importants. Donc il faut qu'il y ait une réflexion à l'échelle de l'agglomération et que la sécurité soit transposée avec les besoins de façon plus globale. La création d'une police intercommunale de renfort, c'est un des objectifs du programme de Nouveau Narbonne. C'est mettre à la disposition des maires du territoire une police de renfort, tout en gardant le pouvoir de police souveraine de chaque maire. Ça, on y tient, et cette police intercommunale peut être facilement et rapidement mise en place. Et de la même façon, pourquoi pas créer un centre de supervision intercommunale pour rendre plus opérationnel et plus efficace ces caméras qui travailleraient entre elles.
Alors sur le plan de l'économie, j'y reviens un petit peu, vous avez exposé quel est votre programme, et notamment sur la fameuse zone future, enfin qui existe déjà, de Montredon et de Névian. On sait que quelques kilomètres plus loin, il y a également un pôle important économique qui est celui de Lézignan, qui a réussi et qui continue à réussir et qui attire un certain nombre d'entreprises, dont des entreprises narbonnaises comme Narbonne Accessoires.
Exactement.
Est-ce qu'un jour, il est envisageable qu'il y ait une sorte de coopération et que ce pôle qui va être central, non seulement dans l'Aude, mais un petit peu dans l'ancien Languedoc-Roussillon, se renforce encore ?
C'est une évidence. On ne veut pas créer des murs autour du Grand Narbonne. Il faut qu'il y ait des passerelles et des ponts entre les autres intercommunalités. Il y a Cléra aussi, qui est une intercommunalité dynamique. Lézignan a un foncier disponible très important. Il faut travailler, et Didier Mouly entretient en plus des bons rapports avec la communauté du Lézignanais. Il faut qu'on crée cette liaison. C'est cette réflexion, et Montredon-Névian, c'est la continuité également, c'est créer un bassin d'emploi important qui servira à l'ensemble du territoire. Mais on n'est pas pour raisonner intramuros, il faut privilégier le Grand Narbonne, mais également penser à s'élargir pour réussir cet objectif, la bataille de l'emploi.
Parmi les compétences alors obligatoires de l'agglo, il y a l'environnement. Est-ce que à ce sujet-là, vous pensez que ce qui se fait à l'heure actuelle est suffisant, ou est-ce que vous avez une vision et des souhaits particuliers ?
Alors, l'environnement, on l'a inscrit comme une proposition majeure dans le cadre de vie de la programmation municipale, avec les allées de la Robine en particulier. Michel Santo a en parlé au préalable. Au niveau du Grand Narbonne, ça va passer par la gratuité des transports. Ça nous tient à cœur pour deux raisons, le volet économique, mais également le volet responsabilité écologique. Aujourd'hui, les recettes réelles des usagers sur le transport à Narbonne représentent 9,2% du budget. C'est en dessous de 10%. Toutes les grandes intercommunalités qui sont passées à la gratuité des transports, Dunkerque en particulier, avaient des recettes des usagers qui étaient supérieures à 10%. Donc on peut se le permettre financièrement. Et cette gratuité des transports à l'échelle du territoire, avec la création également de parkings relais sécurisés et agrémentés de services sur les périphéries de ces axes, permettrait bien d'avoir une mobilité beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide sur notre territoire. Mais il faudra également augmenter la rotation des navettes et repenser avec cette gratuité, l'augmentation du nombre d'usagers, la politique de transport en commun sur la ville de Narbonne.
Alors finalement, vous êtes d'accord avec les Robin Robin dont on parlait tout à l'heure.
Mais on est...
sur ce point de la gratuité des transports.
Il y a forcément, c'est un mouvement qui est né dernièrement sur ces enjeux qui sont importants et qui nous tiennent à cœur. Forcément, on ne peut pas rester insensible à tous les drames qui se passent au travers du monde. Donc il y a des idées qui sont nécessaires. C'est peut-être un complément à la politique municipale, mais je ne sais pas si c'est un programme en soi de tout travailler autour des propositions que font les Robin actuellement.
Alors, ben on va conclure. Alors, un dernier point, justement. Alors, je le redis, il est probable qu'après les élections, les choses ayant changé et les résultats étant connus, on vous retrouve peut-être parmi les prétendants à la couronne, si je puis dire. Mais vous l'avez souligné, Bertrand Malquier, il est trop tôt pour le dire aujourd'hui. Un dernier point, donc, et un dernier souhait, peut-être, aujourd'hui, dans cette campagne, à mi-février, pour vous... Donc vous avez répété encore une fois que la chose vous intéresse fondamentalement.
La priorité pour moi, c'est de faire gagner Didier Moulier et l'équipe Nouveau-Narbonne. On a une très belle équipe avec des expériences, avec un regard nouveau. On a un programme qui est équilibré, qui est réaliste et réalisable, qui s'inscrit dans une continuité avec des points d'amélioration. Il est... On est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, personne peut nous reprocher le fait d'être de bons gestionnaires. Je pense que c'est acquis pour tout le monde et tout le monde sait nous le reconnaître. Nous avons également une vision du territoire que nous voulons proposer aux Narbonnais. Aujourd'hui, la priorité, ben, c'est de convaincre encore des Narbonnais. Il nous reste 4 semaines. Rester élu à la ville de Narbonne et bien évidemment partager l'exécutif du Grand Narbonne pour avoir une vraie vision de territoire qui compléterait idéalement notre vision.
Voilà, c'était l'objet de votre présence et de votre invitation aujourd'hui. Merci Bertrand Malquier. Les deux prochaines fois, nous resterons sur le même thème, je le redis. Donc, nous recevrons monsieur Alain Fabre, qui est lui, alors, conseiller communautaire aussi, mais qui est le maire et qui peut-être et probablement sera réélu le maire de Bise-Minervois. Et puis, même chose pour Guillaume Heras, qui, lui, est aujourd'hui le maire de Saint-Marcel et qui est à l'heure actuelle chargé d'un des gros secteurs, justement, de l'agglo, à savoir l'environnement. Je crois que c'est le plus gros budget.
Oui, je crois qu'il a la plus grosse délégation, mais il a les ressources humaines aussi.
Voilà. En tout cas, merci Bertrand Malquier d'avoir évoqué avec nous et de nous avoir aidé à expliquer aux auditeurs que... Il y a une élection municipale, mais que celle-ci en cache une autre et qu'il ne faut surtout pas l'oublier et tâcher de la comprendre. Merci à vous.
Merci.